Bonsoir à tous. Et à la une ce soir, le feu presque vert du Conseil d'État sur l'extension du pass sanitaire. Il valide en grande partie le projet de loi, mais alerte le gouvernement sur plusieurs points. Le Conseil des ministres se réunit en ce moment même, avec donc quelques ajustements à la clé, nous dira Yaël Gauz. Le pass sanitaire étendu notamment au cinéma dans les prochains jours. On en parle aussi dans 20 minutes. Bonsoir Marion Lourd.
Bonsoir.
Ce sera le sujet du téléphone sonne.
Avec ce pass sanitaire dans les cinémas, avec l'essor aussi des plateformes de vidéo à la demande, va-t-on vraiment retrouver le chemin de nos salles? Question posée ce soir à nos deux invités, Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération des cinémas français, Capucine Cousin, auteur de Netflix et compagnie, les coulisses d'une révolution. Vos questions, vos témoignages 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
Rendez-vous après ce journal à tout à l'heure, Marion. Lui se dit choqué par l'ampleur des révélations. Le lanceur d'alerte Edward Snowden réagit à l'affaire Pegasus, ce logiciel espion utilisé contre des journalistes, contre des militants. Vous l'entendrez. Dans ce journal également, les premiers mots d'Éric Dupond-Moretti après sa mise en examen. Pas question de partir, assure le ministre de la Justice. Et puis nous irons à Tokyo. Mauvaise nouvelle en cascade pour les organisateurs des JO à 4 jours de l'ouverture.
France Inter.
Situation et décision exceptionnelle, horaire exceptionnel aussi pour le Conseil des ministres. Il a commencé il y a une demi-heure avec au menu donc ce projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Première étape d'une course d'obstacles en accéléré jusqu'à l'adoption définitive prévue normalement ce week-end. Bonsoir Yaël Gauz.
Bonsoir Alexis.
Chef du service politique de France Inter. Alors on connaît les principaux contours du texte. Il y a eu les déclarations martiales du président de la République lundi dernier. Mais face à la réalité du droit, le gouvernement sera contraint ce soir à des ajustements.
Oui, mais l'essentiel y est, Alexis. Selon nos informations, le projet de loi est validé aux trois quarts par le Conseil d'État. Le principe de l'isolement obligatoire de 10 jours pour des tests positifs est acté. À cette réserve près, pas de contrôle de police à domicile après 21 heures. L'extension du pass au secteur du social, de la santé, du médico-social, là aussi feu vert. De même qu'au cinéma, restaurant, etc. Mais l'échelle des sanctions est revue à la baisse. Si l'exploitant est en faute lors d'un contrôle inopiné, autrement dit, s'il est constaté qu'il n'a pas été vigilant sur la présentation du pass, alors cet exploitant s'expose à une contravention de 1000 euros. On passe à 9000 euros en cas de non-respect des règles à 4 reprises en l'espace d'un mois. Les 45 000 euros d'amende ne concerneront que les personnes morales. Pour les salariés récalcitrants à la vaccination, tolérance jusqu'au 30 août. Ensuite, sanctions disciplinaires pouvant aller, si au bout de 2 mois rien ne change, jusqu'au licenciement. Pouvant aller jusqu'à, le licenciement n'est donc pas automatique, cela peut être une mise à pied qui se prolonge. Le véritable carton jaune, Alexis, du Conseil d'État, c'est sur les centres commerciaux, discrimination rejetée entre ceux qui font plus ou moins de 20 000 mètres carrés. Il va falloir recorriger la copie. Enfin, assouplissement à venir pour les femmes enceintes et les personnes pour qui le vaccin est contre-indiqué par un médecin, afin de leur éviter d'avoir à enchaîner des tests PCR toutes les 48 heures.
Merci Yaël, et c'est le Premier ministre qui dira directement aux Français ce que change précisément ce texte dans leur vie quotidienne. Jean Castex sera l'invité du 13h de TF1 après-demain, juste avant le début de l'examen à l'Assemblée nationale. Il y a un paramètre que le gouvernement ne maîtrise pas, la contestation va-t-elle prendre de l'ampleur? Près de 115 000 manifestants anti-pass sanitaire ce week-end dans les rues, et ces dernières heures, de nouveaux opposants à la vaccination obligatoire pour certaines professions. Il s'agit des sapeurs-pompiers théoriquement concernés. Leur intersyndicale parle d'une atteinte aux libertés individuelles. Frédéric Monchy préside le syndicat national des sapeurs-pompiers.
On va faire le travail qu'il faut jusqu'à ce que ce texte soit voté pour l'amender, voire le modifier, voire à ce qu'il soit supprimé ou certaines dispositions soient supprimées, notamment les dispositions liées à la révocation et au licenciement, parce qu'il n'est pas acceptable qu'un sapeur-pompier professionnel soit licencié au motif d'absence d'immunité vaccinale. Ça va surtout à l'encontre de la position de la France dans d'autres cadres. J'en veux pour preuve la résolution qui a été signée et votée par le Conseil de l'Europe auquel la France a participé, qui prévoit de ne pas rendre obligatoire la vaccination et que nul ne saurait être victime de discrimination sociale au motif de l'absence de vaccination. Donc là, il y a un 180 degrés qui est effectué aujourd'hui sur la position, qui est incompréhensible.
Le président du syndicat national des sapeurs-pompiers interrogé par Marion Ferrer. Pendant ce temps, l'épidémie repart franchement cette fois dans notre pays. Le taux d'incidence augmente de manière stratosphérique, alerte le porte-parole du gouvernement. Un seul exemple, la Charente-Maritime, jusque-là plutôt préservée. En 8 jours, on y est passé de 14 à 145 cas pour 100 000 habitants. Alors le préfet annonce ce soir le retour du masque obligatoire en extérieur dans une cinquantaine de communes. Parallèlement, la vaccination, elle aussi, a bien rebondi depuis les annonces d'Emmanuel Macron. Mais pourra-t-on tenir ce rythme au cœur de l'été ? Dans certains centres, on craint maintenant une pénurie de soignants, comme dans le Finistère, Hugo Charpentier.
Josiane est une infirmière à la retraite et pour permettre à une amie de souffler un peu, elle a accepté de reprendre du service. La voilà qui prête main forte au centre de vaccination de Pont-l'Abbé.
C'est-à-dire que là, moi, je remplace au pied levé, là, ici, parce que je ne travaille pas, mais ils ont beaucoup de mal à retrouver des remplaçants. C'est quand même une très grosse difficulté. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
C'est une très forte réalité.
Claude Feyant, responsable de la Fédération nationale des infirmiers libéraux dans le Finistère.
Le manque de main-d'œuvre est criant depuis à peu près un an. La possibilité nous a été donné de travailler en même temps que les remplaçants, ce qui fait que les remplaçants interviennent déjà depuis longtemps. Ça donne des personnes qui sont épuisées et dont des prises en charge aujourd'hui pour les nouvelles personnes qui demandent, très difficile à trouver.
Alors faut-il s'inquiéter d'une pénurie de soignants dans les prochaines semaines ? Non, répond Jean-Paul Mongeat, le directeur départemental de l'Agence régionale de santé de Bretagne.
Juillet-août, c'est compliqué tous les ans, mais bon, de là à évoquer des difficultés pour accéder aux soins ou se faire soigner, on n'en est pas là parce qu'on est aussi dans un département qui n'est pas considéré comme un désert médical. Quand on a plusieurs instituts de formation en soins infirmiers, en aide-soignants, bon, on sait que ces professionnels, ils restent dans le département une fois qu'ils sont formés.
Le Finistère dispose donc d'une démographie médicale favorable qui devrait lui permettre de faire face à un été sous tension.
Hugo Charpentier, France Bleu, Brésil. Inquiétude sanitaire et économique aussi. Cette nouvelle flambée épidémique mondiale menace-t-elle la reprise ? Les marchés financiers commencent à s'en inquiéter, à s'inquiéter du variant Delta. Les bourses européennes finissent en forte baisse ce soir à la fermeture, moins 2,5% à Paris, moins 2,34% pour le DAX allemand. Dans l'arrière-pays niçois, la chasse à l'homme se prolonge. Plus de 200 gendarmes et forces d'élite toujours à la recherche d'un individu armé et dangereux, soupçonné d'avoir tué une femme ce week-end. Quand les forces de l'ordre sont venues l'interroger chez lui hier soir à Gréolière, il a tiré sur un gendarme. Depuis, les enquêteurs pensent qu'il n'a pas quitté ce secteur, une zone qu'il connaît parfaitement. Ses voisins directs ont reçu la consigne de ne pas sortir de chez eux. Et ce soir, le préfet des Alpes-Maritimes demande à l'homme recherché de déposer les armes. Une affaire complètement inacceptable si elle est avérée. Les mots de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après les révélations sur Pegasus, ce logiciel qui a servi à espionner via leur téléphone des journalistes, des opposants politiques. France Inter vous dévoile toute la semaine l'enquête d'un consortium international de journalistes dont fait partie la cellule investigation de Radio France. Pegasus, du jamais vu sans doute dans le monde depuis l'affaire Snowden, ce lanceur d'alerte américain qui avait révélé en 2013 la surveillance de masse par la NSA. Et bien ce soir, Edward Snowden lui-même réagit à ces révélations sur Pegasus. Pour lui, une étape de plus est franchie.
Ces smartphones communiquent avec les réseaux mobiles et vous suivent à la trace. Il y a Facebook qui vous espionne, mais là, c'est pour des raisons commerciales. Ce qu'on voit ici, ce sont des gens qui créent une industrie pour pirater ces téléphones et aller bien au-delà de ce qu'on pensait possible jusqu'ici. Maintenant, ils prennent le contrôle de votre téléphone complètement et ils le retournent contre celui qui l'a acheté et qui a payé pour ça, mais qui en fait ne le possède plus. Et ces téléphones sont des clones. Les iPhones utilisent les mêmes logiciels où qu'on soit sur la planète. Donc s'ils réussissent à en pirater un, ils savent le faire pour tous. Et non seulement ils font ça, mais en plus ils le vendent. C'est une attaque intentionnelle et préméditée contre des infrastructures sur lesquelles tout le monde devrait pouvoir compter.
Edward Snowden, interrogé par le consortium de journalistes à l'origine du projet Pegasus. Alors avant de nouvelles révélations dès demain sur France Inter, arrêtons-nous ce soir sur les origines de Pegasus, ce logiciel conçu théoriquement pour lutter contre le terrorisme, conçu par une entreprise israélienne, NSO. Alors qui se cache derrière ce sigle ? Explication d'Alice Froussard en Israël.
NSO, ce sont les initiales de ses trois fondateurs, Niv Karmi, Shelev Roulio et Omriel Lavier. Trois entrepreneurs israéliens qui créent l'entreprise en 2009, bien loin de la surveillance numérique. Ils développent à l'époque des technologies qui reconnaissent des objets dans des vidéos ou des outils pour que les services après-vente puissent se connecter au téléphone de leurs clients à distance avec leur consentement. Mais très vite, le groupe embauche des hackers de la fameuse unité d'élite 8200 de l'armée israélienne pour créer des logiciels puissants pour détecter des failles informatiques. Ils s'entourent aussi d'anciens militaires, d'officiers du renseignement pour leur carnet d'adresses ou pour leur lien avec l'administration israélienne. En 2010, Pegasus, le logiciel de NSO, a donc un premier client, le Mexique, mais reste loin de la lumière, loin aussi des violations des droits de l'homme commises par leurs clients. Mais en 2018, impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, une première plainte est déposée contre NSO. Plusieurs questions se posent alors aujourd'hui. À quel point NSO connaît l'utilisation du logiciel par ses clients et surtout quelle est l'implication du gouvernement israélien dans NSO alors que le groupe est structurellement lié au ministère israélien de la Défense. Tel Aviv, Alice Froussard, France Inter.
Et ce soir, deux des pays concernés, la Hongrie et le Maroc, rejettent toute accusation d'espionnage, notamment de journalistes français concernant le Maroc. Lui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt depuis vendredi dernier. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats, eh bien, il réagit pour la première fois à la décision de la Cour de justice de la République. C'était cet après-midi en marge d'un déplacement à Beauvais, dans l'Oise. Pas question de partir, le garde des Sceaux veut rester place Vendôme.
Je suis plus que jamais déterminé à être pleinement ministre de la Justice. Tout cela est parti d'une déclaration de guerre. Ce sont les propos utilisés par les syndicats de magistrats à mon encontre dans les 2 heures de ma nomination. Les mêmes syndicats qui ont dit que cette plainte avait pour objet et pour seul objet de me faire mettre en examen. Rien n'entamera ma détermination. Je suis extrêmement serein. Ma légitimité, je la tiens du président de la République et du Premier ministre. Je suis à 100% dans la tâche qui est la mienne. Je veux vous dire d'ailleurs que demain je serai pleinement ministre, après-demain aussi et pour tous les jours qui viennent.
Éric Dupond-Moretti cet après-midi à Beauvais. Il avait échappé à la première vague d'arrestation fin avril. Un ancien membre des Brigades Rouges italiennes interpellé à son tour ce matin en France. Mauricio Di Marzio, 61 ans, doit être présenté d'ici 48 heures à la Cour d'appel de Paris. Une nouvelle fois, c'est à la demande de Rome qu'il a condamné pour une tentative d'enlèvement terroriste en 1982. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont-ils maudits avant même d'avoir commencé? À 4 jours de la cérémonie d'ouverture, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les organisateurs, avec déjà la crainte d'un cluster au sein du village olympique, plusieurs cas positifs détectés. Et aujourd'hui, c'est un allié de poids qui vient de faire faux bond au jeu. Toyota, sponsor majeur des JO, renonce à une partie de sa participation à l'événement. Karine Nishimura, sur place pour France Inter.
Le manque d'adhésion populaire à ces Jeux Olympiques a eu raison d'une partie des engagements du sponsor Toyota, l'une des plus grosses et plus rentables entreprises japonaises qui jouit d'une excellente image de marque. Sauf que cette image de marque risque de souffrir de JO dont le maintien pose question. Toyota renonce donc à diffuser au Japon des publicités conçues spécialement pour la période des Jeux Olympiques. Akio Toyoda, PDG et héritier de la famille fondatrice, a par ailleurs décidé de ne pas assister à la cérémonie d'ouverture, de même que tous les collaborateurs du groupe invités, ce par souci de cohérence avec la décision des organisateurs de ne pas accueillir de public. C'est un revers de plus pour ces JO. Néanmoins, un total de 3300 véhicules Toyota, dont des navettes autonomes, seront mis à la disposition des participants. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Et les sportifs, dans tout cela, ils préparent donc des jeux très particuliers, dans une bulle sanitaire, sans supporters. Pas le droit à l'erreur, le moindre faux pas, le moindre test positif ne pardonnera pas. Y a-t-il des craintes chez les Français? Réponse du basketteur Nicolas Batum.
Non, aucune, parce que voilà, on ne va pas franchement focaliser là-dessus. On sait très bien que ça peut arriver, donc on va rester concentré sur ce qu'on a à faire sur le terrain. Si on donne au village, rester dans nos chambres, on restera dans nos chambres. Voilà, mais ça, c'est pas notre sort. Donc, j'ai pas forcément personnellement me prend la tête avec ça. Et collectivement non plus. Du moment que le groupe reste ensemble et soudé et concentré pour le match qu'on a à venir, tant mieux. Le reste, c'est le comité qui décide. On fera en sorte et on fera avec.
Nicolas Batum au micro d'Alexandre Berthaud. Les basketteurs français entameront leur JO ce week-end face aux États-Unis. Et puis un hommage pour terminer ce journal. France Inter a appris aujourd'hui la mort de Michel Garibal, spécialiste de la finance et de l'économie. Il avait notamment travaillé aux Échos et au Figaro magazine, mais aussi ici à Inter en tant que chroniqueur et journaliste au service économie. Extrait de sa chronique matinale, c'était le 26 août 96.
C'est bien un plan de combat que Jacques Chirac et Alain Juppé ont élaboré au cours du week-end à Brégançon pour tenter de désamorcer la morosité ambiante, mais aussi pour retrouver dans l'opinion l'indispensable confiance sans laquelle nos concitoyens continueront de privilégier l'épargne à la consommation, poussant ainsi les chefs d'entreprise à l'attentisme en les détournant de l'investissement.
Michel Garibal, un ancien d'Inter, il avait 86 ans.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
Et une journée ensoleillée encore demain.
Oui, le soleil a posé ses valises pour quelques jours sur l'ensemble du pays. Sur le nord-ouest, en Auvergne-Rhône-Alpes et sur le bassin aquitain, il faudra parfois attendre la dissipation des grisailles matinales pour retrouver un ciel tout bleu. Sur les plages des Landes, au Pays Basque, quelques bandes de nuages bas pourront même avoir du mal à disparaître l'après-midi. Partout ailleurs, ce sera encore bien ensoleillé. Le ciel de l'Occitanie va devenir quand même un peu plus voilé. Et puis des nuages vont également bourgeonner entre l'est de la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et les Ardennes en passant par le bassin parisien. Le soleil restera prédominant malgré l'apparition de ces nuages. En revanche, en montagne, le temps deviendra plus instable demain après-midi. Sur les Alpes, on attend quelques averses, nettement moins nombreuses qu'aujourd'hui. Et puis sur les Pyrénées, les averses pourront tourner à l'orage et même déborder vers les plaines de l'Aude en fin d'après-midi. Du côté des températures, c'est encore la chaleur qui va persister avec une chaleur un peu modérée par une légère bise de secteur nord-est. On ira jusqu'à 36 degrés sur le Languedoc-Roussillon et la Provence. Sur le reste du pays, prévoyez 26 à 33 degrés.
Sébastien Léas, Météo France.